Buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Guillaume de Chassy.
Bonjour.
On est, nous sommes chez vous tout simplement. Voilà, on s'est carrément incrusté, on va dire. On est dans votre antre, chez vous, à quelques kilomètres de Paris, au calme, on pourrait dire. On est à Bourg-la-Reine. Et vous nous recevez déjà pour, je pense, évoquer un nouvel album qui s'appelle Pharaoh's Close. D'ailleurs, le titre, évidemment, fait référence, j'imagine, au film de Wim Wenders.
En fait, je me suis aperçu a posteriori que c'était une citation du film de Wenders que je n'ai pas vu, mais je cherchais une idée de familiarité et en même temps de distance, donc à évoquer quelque chose d'étrange et en même temps familier, comme dirait Verlaine. Et donc j'ai cherché des traductions en anglais. Et il se trouve que ça a donné Far Away Yet So Close, Far Away So Close. Et en faisant un petit peu des recherches, je me suis aperçu qu'effectivement, c'était le titre de ce film de Wenders. Mais j'en suis d'autant plus fier parce que c'est un film que j'ai vu depuis et qui est un très beau film et qui correspond assez bien à mon univers finalement.
Est-ce que le projet de cet album est arrivé, il suit donc un album de piano solo, est-ce qu'on fait des albums parfois un peu en réaction des précédents? Est-ce qu'en fait celui-ci est arrivé dans votre carrière, dans votre discographie, justement parce que le précédent était un album solo?
Je crois que j'avais envie d'une sorte d'extension de cet album solo, donc de continuer à décrire un univers musical, un univers intérieur, dont j'avais fait peut-être un premier bilan en piano solo, donc j'avais besoin d'une orchestration plus conséquente, tout en restant dans un cadre assez intimiste. Et puis j'avais surtout besoin de plus être tout seul dans le studio d'enregistrement et d'être moins seul sur scène, parce que je fais pas mal de concerts en piano solo, c'est une chose que j'adore. J'aime rien tant que me retrouver sur scène et dialoguer avec d'autres instrumentistes. Et donc ça m'a permis de renouer avec ce dialogue, donc dans un premier temps dans le calme du studio et dans un deuxième temps sur scène.
Au niveau du tracklisting, on retrouve, j'allais dire, un peu ce qu'on pourrait qualifier d'éclectisme dans stylistique, des goûts, etc. Parce qu'on commence tout de suite avec un morceau du Pink Floyd. Donc c'est vrai, quand on a un album de jazz, ça déroute un peu. Il y a des compositions personnelles, il y a une composition de Trenet, etc. Il y a une composition de Carla Bley, Majaïda Lupino, enfin, des choses assez variées. Comment se fait justement le choix des thèmes et le mélange entre composition personnelle et œuvre revisitée, enfin reprise?
Tous ces thèmes que vous citez, c'est vraiment des chansons d'abord, avant tout des chansons, puisque j'ai un attachement assez viscéral à la mélodie, à la chanson, que ce soit chanson française ou américaine ou serbo-croate. Et surtout, c'est des chansons que je connais depuis que je suis tout petit. Évidemment, Pink Floyd, quand j'avais 10 ans, j'ai découvert cet album « Wish You Were Here ». Qui m'a passionné immédiatement. Et précisément, si on parle de cet album et de Pink Floyd, en tout cas Pink Floyd jusqu'à The Wall, c'est vraiment un groupe qui proposait plus qu'une suite de chansons, qui proposait un univers. Et chaque album est finalement assez conceptuel, donc assez en avance pour l'époque, en fait. Il n'y avait pas beaucoup d'autres groupes qui travaillaient dans ce sens-là. Et le fait de rentrer dans un univers, pour moi, c'est pour un artiste, c'est quelque chose de très important, de pas juste proposer quelque chose à entendre, mais d'inviter l'auditeur à, un petit peu comme vous faites aujourd'hui, si vous êtes rentré dans ma maison, d'inviter l'auditeur à rentrer chez moi, mais dans mon univers musical. Et donc, Wish You Were Here, c'est assez emblématique de cet état d'esprit. Évidemment, Charles Trenet, c'est un chanteur dont mes grands-parents étaient fous. Mes parents l'ont toujours écouté, donc c'est vraiment une mélodie qui m'a toujours accompagné. Quant à Carl Abley, dès que je me suis intéressé au jazz, donc il y a maintenant 25 ans, j'ai immédiatement été séduit par son univers, dans lequel je suis rentré d'ailleurs par l'intermédiaire de son mari d'alors, Paul Blais, le grand pianiste Paul Blais, qui m'a évidemment beaucoup influencé dans mon propre travail. Mais toutes les compositions de Carl Abley, avec ce mélange de candeur, de sophistication aussi, parce que c'est une compositrice extrêmement sophistiquée, et de rappel de musique populaire, c'est quelque chose que je trouve finalement extrêmement attachant.
Justement, vous parlez de chansons, c'est toujours un fil conducteur souvent donc dans votre approche du piano, de la musique. C'est quelque chose que, j'allais dire, les jazzmen, à une certaine époque, utilisaient régulièrement, en reprenant des standards qui étaient des chansons populaires, qui étaient un peu, j'allais dire, le top 50 de l'époque, et qui s'est peut-être un peu perdu au fil des années. Le monde du jazz l'a peut-être un peu perdu, parce que pour vous, c'est vraiment un rattachement à une certaine tradition qui vous permet certes de vous exprimer de votre manière, mais c'est que ça reste quelque chose d'essentiel.
Oui, pour moi, pour plagier ce que dit un certain Keith Jarrett, la musique, c'est avant tout la mélodie. C'est vraiment ce qui m'entraîne, ce qui me raccroche à une œuvre. C'est l'impact mélodique qu'elle peut avoir. Que ce soit une mélodie tonale qui peut chanter sous la douche, ou une mélodie un peu plus barrée, dodécaphonique ou fracassée ou autre. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui puisse se rattacher de près ou de loin à une chanson, et qui ne soit pas juste une recherche formelle. C'est pour ça que j'ai souvent du mal avec une certaine forme de jazz contemporain qui peut-être par posture ou par volonté tourne un peu le dos à la mélodie, tout comme j'ai du mal avec une certaine forme de musique contemporaine qui tourne le dos aussi à toute forme de consonance et de mélodie. Mais moi, je pense que la musique, ça doit avant tout chanter. Et donc, c'est vrai que moi, quand j'écris de la musique, par exemple, je pense à la voix. Je pense à quelque chose qui puisse être effectivement chanté d'une manière ou d'une autre.
Voilà, on est dans la grande pièce de la maison qui fait office de salon et de cuisine. Je vois des enceintes, je vois des disques, je vois des livres, un peu tout est... C'est le Media Center, comme on dit. Alors, on va peut-être pas jouer à « Montre-moi ce que tu lis ou ce que tu écoutes et je te dirai qui tu es ». Mais c'est important d'avoir, j'allais dire, ces objets sous la main, ces pages, ces livres, ces disques, cette musique dans une pièce. Il y a beaucoup de livres de cuisine aussi, je vois d'ailleurs, dans la cuisine.
Oui, il se trouve que j'ai la chance d'avoir une femme qui, outre le fait d'être chanteuse lyrique et excellente musicienne professionnelle, est aussi une très fine cuisinière, mais ça fait partie bien sûr de l'art de vivre, et c'est donc une part importante de notre équilibre. Et vous n'avez pas encore vu la cave, mais dans cette maison, il y a des livres partout, un peu dans toutes les pièces, il y a des bibliothèques. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de télévision, en tout cas, elle est bien cachée.
Juste pour l'interview.
Non, ouais. L'écran doit faire à peu près 8 cm carrés. Il y a une chaîne dans quasiment toutes les pièces, en fait. Dans cette pièce là, donc dans la pièce qu'on verra ensemble en bas, qui est la pièce de travail, dans notre chambre, il y a une chaîne, et même dans la chambre de ma fille qui a 5 ans et demi, il y a une petite chaîne. Donc on peut écouter de la musique quasiment partout.
C'est une maison enchaînée, il y en a partout. Quoi.
C'est une maison déchaînée, je dirais plutôt.
Alors qu'est-ce qu'il y a par exemple justement en ce moment qui reste un peu scotché dans la platine CD de la chaîne du salon ?
La chaîne du salon, c'est plutôt la chaîne, on va dire la chaîne commune. Donc on va voir d'ailleurs, parce que on va voir ce qu'il y a là-dessus. Alors, il y a Bobby Lapointe, donc ça c'est ma fille qui écoute ça. Il y a un disque magnifique qu'a réalisé Anne-Sophie Von Otter, donc qui est une grande soprano suédoise, je crois, sur des compositeurs qui ont écrit des chansons, tiens, on en est encore là, des compositeurs qui ont été internés pendant la Deuxième Guerre mondiale dans un camp de concentration qui s'appelait
Theresienstadt et qui ont écrit de la musique absolument magnifique. Donc des gens comme Ullmann, Haas, Schulhoff qui sont évidemment totalement inconnus, mais qui n'en ont pas moins composé des choses, des mélodies absolument magnifiques. On a l'album qui tourne en boucle dans notre voiture, parce qu'on écoute aussi de la musique dans la voiture, qui s'appelle Mon premier Bach. En fait, c'est, c'est la vie de Jean-Sébastien Bach, et ma fille Constance en est absolument fan. Mais nous avons des goûts assez divergents qui concernent Jean-Sébastien Bach, parce qu'elle adore la musique pour orgue, et je déteste la musique pour orgue. Elle aime beaucoup les concertos pour bourgeois, moi j'aime pas beaucoup. J'adore le cycle pour violoncelle seule et ça la branche pas. Voilà, bon évidemment Franz Schubert, parce que ça c'est un peu le dénominateur commun à toutes les chaînes de la maison. Donc là on a le quintet, la truite, le quintet à deux violoncelles. Bon, il n'y a pas beaucoup de rap dans cette maison, vous remarquerez. Hein. Et puis là, quatuor de Joseph Haydn, on était la semaine dernière au festival de. Autour du quatuor à cordes à la Cité de la Musique, et on a entendu ce quatuor qui est absolument exceptionnel. Voilà, le père fondateur du quatuor, le grand Joseph Haydn. Voilà, donc ça c'est pour ce qu'il y a ici. Voilà, d'ailleurs il y a pas, pour moi il n'y a pas de, j'ai un petit peu du mal à mettre une hiérarchie là-dedans. En fait, je suis fan de Bobby Lapointe aussi, donc voilà.
La musique classique est assez, on va dire, assez présente.
Oui, la musique classique est, enfin, c'est un peu le socle culturel de la famille, et c'est aussi le mien.
On va peut-être changer de pièce, on va peut-être descendre justement.
Alors on va descendre dans la tanière, dans mon laboratoire en fait. Hop, attention. Là, c'est une partie de la discothèque jazz qui est exceptionnellement classée. Voilà, donc il y a jazz, et puis au-dessous, il y a plus musique du monde, enfin dans les étages inférieurs, musique du monde, un peu de pop, un peu de chanson.
Beaucoup de Bill Evans.
Évidemment, beaucoup de Bill Evans, parce que ça, c'est un peu l'inévitable pour un musicien de jazz.
Beaucoup de Bill Evans, mais aussi beaucoup. Bangkok.
Ouais, bien sûr, ça c'est les pères fondateurs. Hein. En fait, la quasi-totalité de cette discothèque jazz, je m'en suis imprégné au plus profond. J'ai relevé beaucoup des thèmes et beaucoup des chorus improvisés sur ces faces. Il y a certains CD il y a certains disques que j'ai achetés en vinyle, que j'ai rachetés en CD. Que j'ai racheté encore une troisième fois. Enfin, c'est Il y en a qui m'accompagnent depuis vraiment des années et des années.
Il y a aussi évidemment des noms, j'allais dire peut-être un peu moins grand public, ou disons, mais qui restent des musiciens importants. Je vois par exemple Marc Copland ou Enrico Pieranunzi.
Oui, il n'y a pas que des héros.
Du grand livre d'or du jazz.
Exactement. Il y a plein de gens qui sont beaucoup moins. Qui sont beaucoup moins connus, mais qui ont peut-être eu aussi une influence tout aussi grande. Il y a quelques disques, par exemple, il y a des disques qu'on voit là de Paul Blais. Ça, Footloose, c'est un disque très très important que très peu de gens connaissent, malheureusement. Un disque très court, enregistré avec visiblement sur un magnétophone à cassette pourrie. Dans la chambre de Paul Blais, sur un piano tout aussi pourri, avec Steve Swallow et Pete LaRocca en 1962. Et quand on écoute cet album, on s'aperçoit que Jarrett a tout pris à Paul Blais. Et je pense que Jarrett avait un business plan qui devait être plus efficace que Paul Blais. Et du coup, Jarrett est devenu Jarrett, et Paul Blais est resté au RMI. Voilà, mais ça fait partie des disques qui sont pas, je sais même pas si c'est réédité ça, avec une pochette tout aussi pourrie, mais qui pour moi ont été vraiment des événements assez déterminants finalement dans la construction de mon univers, hein, la construction d'un style. C'est vraiment des disques de styliste, quoi. Et ils sont assez rares finalement en jazz. Les disques de stylistes. Il y a beaucoup de disques brillants, de musiciens brillants, mais des disques qui affirment vraiment un style et une prise de parole, il n'y en a pas tant que ça dans cette discographie finalement.
Est-ce que parfois vous mettez devant votre petit mur là de CD un peu au hasard et vous laissez courir vos yeux dessus en disant tiens celui-là j'ai fait un certain temps que je ne l'ai pas écouté, ou est-ce que...
Absolument, ouais, il y en a que je réécoute un peu au hasard comme ça, et il y en a qui ont pris un coup de vieux finalement, en particulier ces disques des années 80, enfin 70 et 80 de Correa que j'adore, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de patine qui s'est mis dessus, ça a peut-être pas forcément très bien vieilli dans la prise de son, même dans l'écriture. Puis il y en a qui sont à mon avis qui sont intangibles, sur lesquels le temps n'a pas de prise. Et c'est des premiers disques de Bill Evans, quasiment tout de Miles Davis, Coltrane évidemment, Monk. On a l'impression que le temps ne passe pas avec cette musique et qu'elle ne peut pas se démoder, c'est pas possible. Ella Fitzgerald, c'est pareil, Billie Holiday, Louis Armstrong, bien sûr. Je ne les ai pas ici, les Hot 5 et Hot 7 de Louis Armstrong. Mais c'est une musique qui échappe à l'emprise du temps, on a l'impression, qui échappe à la poussière. Et voilà, donc ça, c'est des disques que je mets, que je remets. Je joue beaucoup aussi avec les disques. C'est un peu comme ça, en fait, que j'ai appris cette musique, en jouant avec les disques, en essayant de comprendre ce qui se passait. Et puis, en essayant de me glisser fictivement dans le groupe 40 ou 50 ans plus tard. C'est une bonne école.
Et donc, dans cette pièce, il y a évidemment un instrument qui ressemble à un piano et qui même est un piano.
Voilà, donc on voit là sur le pupitre. Donc, c'est un piano droit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place chez moi. Et que un jour j'espère avoir un piano à queue à la maison, donc avec une maison qui va autour, évidemment, avec une nouvelle maison. Donc pour ça, il faudrait évidemment que je sois disque d'or, mais ça ne saurait tarder finalement.
Vous voyez vos dons, hein. Guillaume de Chassis veut un piano à queue.
Donc y a mon, parmi mes outils de travail, évidemment, plein de disques. Là, vous voyez,
Schubert assez présent.
Schubert est assez présent, mais parce que justement, je pars tout à l'heure là, à la folle journée de Nantes, puisque je vais improviser autour de mélodies de Franz Schubert. Donc il y a des partitions de Schubert. Bon, évidemment, Bach, clavier bien tempéré, c'est ce que je pratique tous les matins. Pour, pour les doigts, bien sûr, mais avant tout pour la musique. Parce que ça pose son homme. Le matin au réveil, si on a des doutes sur son existence, et d'une manière générale sur l'existence, on joue Jean-Sébastien Bach et tout d'un coup, tout s'éclaire. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est les sonates de Beethoven. Bon, les sonates de Beethoven, c'est une monomanie chez moi depuis quelques années. Donc, je collectionne les intégrales, en fait, des sonates de Beethoven pour piano. Donc là, je dois avoir 5 ou 6 intégrales au-dessus de vous, là. Voilà, donc j'écoute 4 ou 5 versions en même temps de la même pièce. Mais ça, c'est un peu le mythe de Sisyphe. Ça, on a l'impression d'avoir fait le tour de la question. Et puis, en fait, on redescend vite au bas de la montagne en ayant le sentiment de finalement d'avoir rien compris. Mais c'est ça qui est bien aussi. Il y a mon meilleur ennemi. En fait, j'ai mes outils de travail, c'est ce que vous entendez là. Voilà, ça, c'est mon pote... C'est mon pote Seiko, le métronome. Comme vous le constatez, il est un peu cassé, ce qui veut dire que je lui donne souvent des baffes. Donc, il se ramasse par terre, mais il renaît toujours de ses cendres. Voilà. Mais ça, c'est mon compagnon de travail inséparable. Mon autre compagnon de travail inséparable, c'est ici, vous voyez, un petit mini-disque.
Ce qui est intéressant, justement, c'est qu'en fait, tout est au-dessus du piano. On a donc ce piano droit et on a la chaîne IFI qui est posée dessus. Et à gauche et à droite, de part et d'autre, le piano, on a effectivement des enceintes. Donc ça veut dire que vraiment, vous jouez, vous avez évoqué tout à l'heure devant la discothèque, votre discothèque jazz, le fait de jouer sur les disques, le fait de jouer, d'accompagner les disques, etc. en permanence, j'imagine que c'est un peu le cas avec cette disposition.
Ouais, toujours. C'est un peu un espèce de poste de commande. Là, vous voyez, j'ai quoi là? Ah, ça, c'est Yvonne Printemps. Ah oui, Yvonne Printemps, je suis fan d'Yvonne Printemps. Je suis fan de son répertoire, surtout. Il y a des trucs de Poulain, de Strauss, de Reynaldo Hahn, ils sont magnifiques.
On revient toujours à la mélodie. En fait.
Toujours la chanson, toujours la mélodie. Alors, c'est vrai que c'est un peu daté. Enfin, l'interprétation est un peu datée. Hein. C'est un peu... c'est la saison des amours. Bon, mais la musique est magnifique. Donc, en fait, pour mon prochain projet avec Daniel Levinec... Je suis en train de nourrir le répertoire avec ça. Il y a quoi? Bon, évidemment, il y a des quatuors de Beethoven. Bon, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours l'obsession. Et puis, Michael Brecker. Voilà, le dernier album de Michael Brecker, avant qu'il rejoigne Beethoven
tout là-haut.
Au paradis des grands musiciens. Voilà, donc en fait, moi, quand je suis à mon piano, je travaille, j'écoute beaucoup de musique, j'essaie de repiquer ce que j'entends et dont j'aurai pas les partitions. Même s'il y a des partitions, j'essaie de faire confiance plus à mon oreille qu'au texte. Et en fait, c'est une école au quotidien. Voilà. Et puis j'écris aussi pas mal de musique. Là, vous voyez, il y a un score là que je suis en train de finir pour un chœur universitaire à Toulouse. Ça, je pense que c'est une partition pour cœur d'homme, si je ne m'abuse. Voilà, alors ça, c'est encore une autre activité qui prend énormément de temps et qui rend en fait à moitié autiste. Quand on écrit de la musique, et là, quand on l'écrit et qu'on l'arrange pour ensemble, que ce soit un ensemble instrumental ou un chœur, il faut être dans le calme et la concentration les plus totaux. Et c'est pas facile, c'est des conditions qui sont pas très faciles à trouver. Donc, pendant toute la période où j'écris, je suis généralement de mauvaise humeur.
L'écriture, justement, c'est quelque chose de vital pour vous? C'est quelque chose de... Comment vous abordez ça?
L'écriture, pour moi, c'est un peu comme un sportif qui ferait tous les jours son footing et ses étirements, quoi, et sa muscu. J'essaie de faire en sorte que ça soit un exercice quasiment quotidien. Même si au final, il y a peut-être 1% de ce que j'écris qui devient en effet une pièce, une œuvre. Moi, j'écris très lentement, je suis assez besogneux dans l'écriture. Je suis très, très perfectionniste, extrêmement tatillon. Et finalement, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour écrire quelque chose qui doit sonner de manière évidente. Même si c'est très complexe à écrire, il faut qu'au final, mon objectif, c'est que ça sonne de manière limpide.
quelque chose de naturel chez vous, la composition, l'écriture? Comment ça, est-ce que ça a évolué, votre approche de l'écriture pure?
Oui, beaucoup. Essentiellement depuis que j'écris pour la voix, en fait, pour les chœurs. Bon, il y a une période de ma vie où je me suis beaucoup investi là-dedans. C'était en 2000-2001 où j'ai écrit pour un ensemble qui s'appelle Les Éléments, qui est un des meilleurs chœurs en France, qui est basé à Toulouse, dirigé par Joël Subiette. J'ai écrit une cantate pour eux et ça a pris un an de ma vie quasiment à temps plein. Et donc ça m'a montré le début de ce que pourrait être cet art de l'écriture. J'ai évidemment pas prétention à être un compositeur avec un grand C. D'abord parce que j'ai pas du tout le temps et l'énergie suffisant pour m'y consacrer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pour moi est très important et qui est indissociable finalement du fait d'improviser. Et plus j'écris de la musique et plus je progresse en tant qu'improvisateur.
Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez cité le nom de Daniel Evinec, avec lequel vous allez à nouveau travailler. C'est lui, je crois, qui a produit le nouvel album.
Oui, c'est lui qui était derrière nous, en studio, qui était un peu l'oreille de Moscou, avec toute la bienveillance qu'on lui connaît, mais à la fois la sagacité dont il fait preuve dans ce genre de métier, qui n'est pas facile d'ailleurs, le métier de directeur artistique, parce que il faut prendre des décisions assez rapides et il faut être suffisamment ferme mais suffisamment diplomate pour
un peu psy.
Il faut être extrêmement psy, oui, bien sûr, ouais. De manière à orienter l'album non pas dans la direction qui plaît le plus au directeur artistique mais dans la direction dont il sent que c'est là-dedans que l'artiste va se réaliser à 100% de lui-même. Donc c'est un exercice d'équilibriste qui n'est pas facile, mais pour moi la mission a été largement accomplie. Je suis absolument ravi de cette nouvelle forme de collaboration finalement.
Vous qui êtes assez perfectionniste, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose d'important pour vous, la sonorité, le son d'un disque, au-delà de les musiciens avec lesquels vous jouez, les compositions, etc. Est-ce que vous tenez la production, etc. Ça vous...
Ah oui, pour moi c'est peut-être l'élément le plus important. C'est peut-être ce qui m'attire le plus finalement dans un groupe ou dans un projet musical. C'est d'abord le son du groupe, ensuite la manière dont le son a été capté et la manière dont le son a été traité, mixé, masterisé. Pour moi, c'est d'autant plus essentiel qu'un disque c'est quelque chose qui reste, enfin qui est censé rester. Et donc c'est vrai que j'accorde énormément de soins au choix du studio, au choix du piano. La prise de son, au mix, au mastering, etc. C'est absolument essentiel qu'un projet discographique soit produit. Alors je sais que c'est pas très courant en jazz, c'est pas très courant d'avoir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget, que le temps est toujours compté, qu'il faut aller très vite, mais on doit pouvoir quand même se débrouiller, la preuve, pour avoir un vrai processus de production avec un directeur artistique et avec tous les maillons de la chaîne qui soient bien maîtrisés finalement.
Donc album précédent, album solo, nouvel album en trio. Comment vous définiriez quand même, vous trouvez avec une rythmique, vous êtes un musicien, vous partagez beaucoup, vous avez vraiment des idées bien précises, les choses évoluent et se passent durant l'enregistrement. Est-ce que bon, il y a des compositions qui sont des co-compositions en fait sur cet album, donc comment se passe, et même j'allais dire dès le début, comment se fait le choix à la rigueur des musiciens que vous invitez ou qui jouent à vos côtés?
Ce choix s'est fait assez naturellement par des rencontres, enfin ce qu'on appelle des sessions, c'est des réunions informelles de musiciens. Ça se pratique beaucoup dans le jazz à New York, ça se pratique beaucoup aussi à Paris. C'est 3 ou 4 musiciens qui s'envoient un texto et qui se disent « Tiens, mais qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine, le mardi à 16h ? On se retrouve chez moi. » Et même si on ne s'est jamais vu, même si on ne se connaît pas, on joue ensemble pendant 3 heures, on découvre de la musique, on essaye des choses, on joue des morceaux qu'on ne connaît pas, etc. Et au cours de ces réunions informelles, au cours de ces sessions, il peut y avoir des moments de grâce, tout comme il peut y avoir des moments assez piteux, mais c'est le but du jeu. Et ces moments de grâce, en fait, je les ai vécus séparément d'abord avec le batteur Fabrice Moreau, dans d'autres contextes, et puis à plusieurs reprises avec le contrebassiste Stéphane Kéréki, que j'ai ensuite retrouvé pour quelques concerts. Et puis un jour, j'ai décidé de les mettre ensemble. C'était ici d'ailleurs, c'était dans cette pièce là.
C'est une expérience chimique un peu, ça, vous aviez...
C'est une expérience chimique, en fait, c'est très sexuel finalement comme expérience. C'est-à-dire qu'on ne se parle pas, on ne se connaît pas, et puis on joue ensemble, et dès la première note, on sent qu'il y a une espèce d'empathie, une espèce de naturel. Et on voit un horizon qui se dégage, qui s'ouvre. Et dès la fin du premier morceau, on savait tous les trois qu'on avait vraiment quelque chose à faire ensemble. Et quand ce phénomène se produit entre des musiciens, c'est suffisamment rare pour qu'on veuille aller plus loin et concrétiser des projets et avancer et vraiment creuser la question. C'est donc ce que j'ai fait. Ce qu'on a fait ensemble, on a beaucoup travaillé, on a essayé plein de modes de jeu différents. Et puis, au final, j'ai décidé de réaliser cet album. Donc, j'ai écrit de la musique pour l'occasion.
Avec ces deux invités, ces deux musiciens.
Avec ces deux musiciens, donc avec Stéphane Kéréki et Fabrice Moreau. Au cours de la séance d'enregistrement, on a enregistré énormément de musique. Et en fait, on a enregistré la matière pour faire au moins deux albums. Mais deux albums extrêmement différents. Il y en avait un qui était plus typé, on va dire, jazz. Donc avec peut-être un mode de jeu plus connoté, donc qui fait plus référence à des disques qui existent déjà et qui sont les disques enregistrés par tous nos héros. Donc Paul Motian, Ornette Coleman, Bill Evans, et Paul Blais et Charlie Haden. Donc tout ça, on l'a enregistré, on l'a réécouté. Et puis il y a, on va dire, la substantifique moelle qu'on n'a pas discernée tout de suite, qu'on a discernée à la réécoute, qui est, je pense, beaucoup plus typique, beaucoup plus caractéristique de ce que nous sommes vraiment, tous les trois, en tant que quantité, en tant que trio, qui donc un propos, à mon avis, beaucoup plus personnel. Et donc c'est une décision un peu cornélienne à prendre, mais d'ailleurs le directeur artistique est là pour nous aider à la prendre. Et c'est finalement cette partie-là de la cuvée, la tête de cuvée finalement. Je dis ça parce qu'on est juste à côté de ma cave, c'est pour ça, là, si on ouvre là, il y a pas mal de pinards à droite là.
Effectivement.
Bon, donc en fait c'est la tête de cuvée qu'on a choisie. Et je pense vraiment qu'on a eu raison, puisque c'est ce qui est, à mon avis, le plus caractéristique, le plus emblématique. Donc ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est un problème. En tout cas, on peut difficilement dire que ça fait directement référence à tel ou tel ou tel album, donc de nos illustres prédécesseurs, ce qui était le cas pour, on va dire, le fond de cuvée qu'on a donc volontairement laissé de côté. Mais c'est aussi à ça que ça sert un disque. C'est très thérapeutique et cathartique comme processus. Il y a tout qui sort, c'est une espèce de psychanalyse de groupe, et puis on fait le tri. Avec un petit peu de recul, on fait le tri sur ce qui est le plus profond, le plus sincère, parfois le plus fragile, mais en tout cas, pour moi, le plus personnel, donc forcément le plus convaincant.
Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir réalisé ou d'avoir dit avec ce nouvel album que vous n'aviez pas dit ou que vous n'aviez pas réalisé avec les opus précédents ? Est-ce que c'est peut-être encore trop frais, peut-être, dans votre tête ?
Non, mais d'abord, c'est la première fois que j'enregistre un album en trio, donc piano, contrebasse, batterie, qui est quand même un format extrêmement classique, extrêmement documenté dans l'histoire du jazz. C'est moins qu'on puisse dire, mais bon, j'ai attendu d'avoir 42 ans pour le faire. Et c'est pas un hasard. C'est parce que j'avais besoin de sentir la maturité et l'urgence finalement de réaliser ce projet, et que ce projet sonne d'une voix singulière. Il me semble que c'est le cas. Ce que je voulais surtout, c'était pas réaliser un album d'un type qui joue très très bien du piano avec derrière deux espèce de piano héros, si vous voulez, avec derrière deux brillants accompagnateurs. Ça ne m'intéressait pas du tout. Donc je voulais au contraire réaliser un album très collectif et très minimaliste, en fait. Donc, parce que...
Comme les grands albums, j'ai l'air de trio jazz, que ce soit, je ne sais pas, Matt Jamal, avec Israel Crosby, Vernon Fournier,
voilà,
par exemple.
C'est un peu la quintessence. Et en fait, notre objectif à tous les trois, c'était vraiment de jouer le moins de notes possible, mais les bonnes notes, et surtout qu'elles soient, que ce soit des notes qui soient intimement mêlées les unes aux autres, et que ce soit vraiment une conversation à trois voix. Et même si c'est une conversation qui est chuchotée, c'est que ça soit vraiment une conversation équilibrée à trois voix. Et donc, c'est là-dessus qu'on a essayé de travailler. Voilà, on voulait en effet éviter le syndrome du pianiste qui est devant. Et ça, c'est Wayne Shorter qui me laisse un message. Du pianiste qui est devant et qui est accompagné par deux sidemen. Je déteste ce terme, en fait. C'est vraiment de la musique de chambre, finalement. Au sens, là, on parlait des trios de Schubert tout à l'heure. C'est ça. Dans le trio de Schubert, il n'y a pas un pianiste qui accompagne un violoniste avec un violoncelliste qui fait les basses, quoi. C'est vraiment trois voix.
Est-ce que c'est facile, justement, d'être totalement soi-même quand on a, j'allais dire, la culture, le fan de musique que vous êtes, avec toute la connaissance, justement, de l'histoire, de l'importance du trio, par exemple, jazz, dans l'histoire du jazz, dans l'histoire de la musique, et d'arriver, donc, inévitablement et inconsciemment, d'avoir toujours à l'esprit ce qui a déjà été fait, ce qui a marqué, ce qui n'a pas marqué, etc. Et en même temps, d'être vous-même, c'est-à-dire d'être vraiment... Ça se passe inconsciemment, ça se passe étape par étape. Comment on arrive à gérer tout ça?
Pour répondre à cette question, il va falloir qu'on s'assoie sur mon canapé. Donc effectivement, on est un peu dans la même position que un pianiste, par exemple, un pianiste classique qui voudrait enregistrer du Chopin ou du Beethoven, enfin arriver sur un répertoire... extrêmement référencé, extrêmement documenté par les maîtres de l'interprétation qui l'ont précédé. Sauf que là, c'est pas de l'interprétation, c'est de l'improvisation. Mais en même temps, dans le jazz, c'est vrai que comme on procède par imprégnation et ensuite restitution, le premier réflexe chez un musicien, on va dire chez un jeune musicien, un musicien qui est pas complètement fait, qui est pas complètement mûr, c'est de plagier, finalement, de refaire. Mais c'est normal. Tous les grands peintres, par exemple, ont passé des heures à copier l'étoile des maîtres qui les ont précédés. Hein. Ils étaient dans les musées, et ils plagiaient, jusqu'à, finalement, un jour, devenir eux-mêmes. Donc, une partie de la réponse à la question, c'est de dire que j'ai attendu d'avoir 42 ballets pour me lancer là-dedans. La deuxième partie de la réponse, c'est que il y a la moitié de la musique qu'on a enregistrée, ce que je disais tout à l'heure, qu'on a mise à la poubelle, parce que ça ressemblait au trio de machin, de machin, de machin, dont j'ai les disques à la maison, et qui sont évidemment 10 fois supérieurs à cette espèce d'exercice de style qu'on a pu tenter en studio. C'est la raison pour laquelle on a éliminé cet exercice de style. Même si intrinsèquement c'est intéressant parce que c'est un exercice de style, ça n'amène rien de plus finalement à la discographie. Alors, le troisième élément de réponse, c'est quand est-ce que j'avais l'impression que j'étais dans le juste ? C'est assez immédiat, en fait, comme sentiment. C'est quand je ne réfléchis à rien pendant que je suis en train de jouer. Donc ça, c'est quand je suis en concert ou que j'enregistre et que je commence à gamberger tout en jouant, je sais que la musique est pourrie.
C'est mauvais signe.
Direct. Donc, j'ai même pas besoin de réécouter. Je sais que c'est pas bien. Je sais que je suis en train de réfléchir en jouant et que donc la musique... sera une espèce de restitution d'une leçon bien apprise et que donc elle ne sera pas sincère. Dès l'instant où je joue sans me poser aucune question et où finalement mon cerveau est électroencéphalogramme plat, c'est très bon signe. Et d'ailleurs, toutes les prises qui sont sur l'album procèdent de cet état d'esprit. C'est que après les avoir enregistrés en studio, je n'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé. Je ne savais pas du tout ce qu'on avait fait. Et d'ailleurs, c'est des prises qu'on a réécoutées beaucoup plus tard, qu'on a réécoutées plusieurs jours plus tard. Et j'en avais aucun souvenir. Et ça, c'est bon signe. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, on a essayé de défendre un parti pris assez, je pense, assez tranché de minimalisme, d'anti-démonstration, de jeu collectif le plus sobre possible et le plus au cœur du son possible. Et c'est vraiment comme ça que j'entends développer en fait mon projet en trio.
Alors on va sans aucune transition, on parlait de chansons tout à l'heure, et là je vois sur un coin du bureau qui se trouve juste derrière le piano, deux albums mythiques de Sinatra, Only the Lonely et The Whistle Hour. Sinatra, c'est aussi quelqu'un d'important pour vous ?
Alors, au départ, et pendant de nombreuses années, j'ai pas du tout aimé Sinatra. Il y a quelque chose chez lui que, en même temps, j'admirais.
C'est sa voix qui vous gênait ? C'était quelque chose dans...
C'est plus que sa voix, c'est ce que dégage le personnage, ce que dégage l'artiste au travers de sa voix. Et si, de manière vraiment objective, je ne pouvais être qu'éperdu d'admiration pour l'immense artiste, l'autorité, la maîtrise qui peut avoir. J'ai jamais été touché par Sinatra. Jusqu'à ce que je découvre ces deux albums-là, et en particulier Only the Lonely, que je viens de recevoir par la poste hier, parce qu'il n'est pas facile à trouver. Et là, j'ai été bouleversé par Sinatra. Et donc, ça y est, j'ai le virus, là. J'ai le virus. Et si on parle de mélodie, effectivement, c'est un répertoire qui est, là, pour le coup, qui n'a pas pris une ride, et qui est servi par, justement, un interprète que moi, je trouve d'une modernité absolue, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun effet. Il y a, justement, les effets de gourmette et les relents d'eau de toilette mélangés aux odeurs de tabac froid que je pouvais ressentir et que je peux toujours continuer à ressentir à l'écoute de certains disques de Sinatra. Ici, il n'en est plus question, quoi. C'est vraiment une mise à nu, je trouve, cet album, Only the Lonely. Bon, évidemment, si on écoute ça le matin au réveil, je pense qu'on se met une balle dans le genou gauche.
Surtout si on enchaîne avec In the Whistle Hour.
Voilà, voilà. Surtout si on enchaîne avec celui-là, qu'on m'avait offert en vinyle, que j'avais paumé, et que là, je viens de recommander à nouveau en CD. Voilà, donc effectivement, c'est des jalons importants maintenant.
Alors bon, on a évoqué plein de noms, on a touché plein de disques, on a eu des partitions. On va peut-être revenir sur ce piano. Je sais pas si vous voulez nous jouer quelque chose.
Allez, je vais vous jouer. Bon, alors donc je vous joue une chanson d'amour, d'amour malheureux évidemment.
Je pense qu'on va, remonter à la surface de la Terre, on va quitter ce petit havre de paix et de musique. Merci Guillaume de Chassis de nous avoir reçus chez vous, donc pour l'occasion de la sortie de votre nouvel album Far West So Close.
Bah, merci à vous, vous revenez quand vous voulez. Hein. La cafetière est en ordre de marche.
Fantastique. Merci, puis à bientôt.
À bientôt. Thank you.
Marc Zisman.